Donc en fait, le problème du corps n'est pas un problème du devenir de la matière, mais plutôt un problème, quelle est la volonté que je mets en œuvre? Est-ce que je suis, moi, selon le Seigneur, ou est-ce que je suis charnel? Alors, ce qui est à voir pour la résurrection et pour le devenir du corps, c'est ce qui est dit au verset 35, quelqu'un dira, comment ressuscitent les morts et avec quel corps viennent-ils? Et on va voir au verset 42, ainsi la résurrection des morts, le corps est semé en corruption, il ressuscite en incorruptibilité. Le corps est semé en déshonneur, il ressuscite en gloire. Le corps est semé en faiblesse, il ressuscite en puissance. Le corps est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Et donc voilà quatre particularités du corps de résurrection. Et quel est ce corps de résurrection? Comment est-ce qu'il est? Comment est-ce qu'on peut penser que nous serons? Alors, vous allez me dire, oui, mais en quoi ça nous intéresse? On verra bien quand on y sera. Je pense que le fait d'avoir une idée précise de ce que dit la parole de Dieu, et pas plus, est important, parce que suivant comment on sera dans ce corps glorifié, alors on comprendra ce qui est important pour ce que nous faisons aujourd'hui. Si quelqu'un pense, par exemple, que dans l'éternité, nous serons des esprits, alors il va dire, mais aujourd'hui, le corps n'a pas tellement d'importance. Si quelqu'un pense que dans l'éternité nous serons des esprits qui adoreront, alors qu'il n'en est jamais question dans la Bible, de ce que nous ferons dans l'éternité. Il y a juste deux passages dans 2 Pierre 3, 13, où nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans laquelle la justice habite, et dans Apocalypse 21, où il est dit que Dieu essuiera toute larme de nos yeux et qu'il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni peine. Mais on ne sait pas ce qu'on fera dans l'éternité. Mais si on pense que dans l'éternité, toute notre dimension corporelle sera fini, quand on n'aura plus de dimension corporelle, alors aujourd'hui on est un peu embarrassé. On se dit, oh là là, vivement que je quitte ce corps. Mais si au contraire, on peut affirmer avec la parole de Dieu qu'il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre, que le propos de Dieu est de réunir en un, et que nous aurons un corps spirituel, c'est-à-dire que, en fait, il y aura, nous connaîtrons comme nous aurons été connus. Dieu habitera parmi nous. Il y aura une communion entre nous, qui fera que dans notre corps, nous vivrons avec le Seigneur. Et 1 Jean 3 nous dit que nous lui serons semblables car nous le verrons comme il est. Alors si ces choses-là sont posées, on est d'accord qu'on ne sait pas ce qui se passera dans l'éternité, mais que par contre, notre corps est déjà le temple du Saint-Esprit, que notre corps est déjà le lieu de la manifestation de choses éternelles, que notre corps pour l'instant est corruptible. Oui, la maladie, oui, la mort, il est corruptible. Mais c'est quelque chose dans lequel nous avons à marcher et que nous n'avons pas à considérer comme problème. Oh là là, je vieillis. Qu'est-ce que ça veut dire ces gens qui se disent « mais il faut vraiment que je reste jeune, que je me fasse des petits liftings ou que je me mette des pommades tous les jours pour éviter d'avoir des rides ». Mais je crois que le chemin du corps, c'est de vieillir. La destinée normale du corps, c'est de vieillir. Mais par contre, je le vis avec le Seigneur. Je ne sais pas ce qui va se produire, ce que je vais pouvoir faire, mais ce que je le fais avec le Seigneur. Et je sais que j'aurai un corps spirituel. Alors, qu'est-ce que c'est un corps spirituel, un corps animal? Alors là, je ne vais pas prendre le temps de bien y rentrer. Mais on a posé quelques principes. On a vu dans le deuxième point que nous sommes faits à l'image de Dieu et que nous avons, nous, à rester dans ce souffle de vie que Dieu souffle en nous. Et Dieu souffle dans les narines de l'homme une respiration de vie et il devint une âme vivante. C'est ça, ne pas être charnel, en fait. Rester dans ce contact avec le Seigneur, un corps spirituel. Alors évidemment, aujourd'hui, nous ne le sommes pas encore. Ce qui est corruptible deviendra incorruptible. Ce qui est en déshonneur, aujourd'hui, il y a des choses en déshonneur, mais deviendront glorieuses. Ce qui est aujourd'hui faible sera puissant à la résurrection. Ce qui est animal, et le mot grec pour animal c'est psychikon, qui a donné psychique, c'est-à-dire cette faculté de vivre indépendamment de Dieu, deviendra spirituel. Alors, comment est-ce que je peux, moi, savoir plus précisément ce que je serai dans la résurrection? Eh bien, nous avons vu que dans la résurrection de 1 Corinthiens 15, 23, il y a trois rangs, et que Christ, les prémices, ce sont les premiers fruits. Eh bien, le premier fruit, il s'est passé quelque chose, Jésus-Christ est ressuscité, et beaucoup de personnes l'ont vu dans son corps de ressuscité. Comment est-ce qu'il était? Il avait deux bras, deux jambes, un nez, deux yeux, une bouche. Il a mangé du poisson, du miel. Alors oui, on me dit, oui, mais il est passé à travers les murs. Oui, mais il a fait des miracles avant aussi. Il a marché sur les eaux. Il a fait des miracles par rapport à son corps. Alors on me dira, oui, mais pourquoi est-ce que les disciples qui l'ont vu ne l'ont pas reconnu? Je donnerais peut-être deux raisons à cela. Si quelqu'un est enseveli le vendredi soir, que le dimanche matin vous le rencontrez, je ne suis pas sûr que
vous le reconnaissiez facilement. Voilà une première raison. La deuxième raison, c'est que Ésaïe 52, dont je pense que cela parle du Seigneur Jésus sur la croix, son visage était plus défait qu'aucun fils d'homme. Alors, quand les disciples l'ont vu, je crois que le Seigneur portait les marques de ses souffrances sur ses mains, sur ses pieds, à son côté. Mais par contre, quant à son état, il n'avait plus les marques de fatigue. Et donc, voilà une deuxième raison, peut-être, je dis bien, qui fait que les disciples n'ont pas reconnu. Alors, qu'est-ce que je serai dans l'éternité? De toute façon, peu importe. Mais il ne faut pas dire forcément que je serai quelqu'un de différent de ce que je suis maintenant. Dieu a créé l'homme à son image. Le Christ Jésus est Dieu manifesté en chair. Et il n'y a pas de raison qu'il devienne autre chose. Hein, il est Dieu manifesté en chair. Et à sa résurrection, quand il a été avec ses disciples, ils ne lui ont pas dit « Mais tu es bizarre, tu es différent, etc. » Quand Marie de Magdala veut retenir le Seigneur lui dit « Ne me touche pas. » Et en grec, c'est plutôt « ne me retiens pas ». Il faut que « laisse-moi monter vers mon Père, mais je vais vous revoir ». Donc il ne s'agit pas là, qu'il ne fallait pas que Marie de Magdala le touche. Le Seigneur Jésus a un corps de ressuscité, et nous commençons déjà à vivre la vie éternelle dans notre corps, mais bien sûr un corps qui porte les marques de faiblesse. Mais une faiblesse dont nous n'avons pas à gémir. C'est la marque du chemin avec l'opposition, du chemin de l'enfant de Dieu, avec le combat spirituel, avec l'opposition, avec les difficultés. Mais une faiblesse qui est celle dans laquelle le Seigneur peut dire « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. » Alors, peut-être quelques mots en conclusion. Vivre dans le plan de Dieu, c'est aussi vivre dans la matière. Et peut-être que cette expression de dire « boire un café spirituellement » ne vous convient pas, mais il faut peut-être en trouver une autre. Mais en tout cas, que je vive moi, c'est même plus que vivre dans mon corps. C'est mon corps, c'est moi. Et il y a ce temps provisoire dans lequel la poussière retourne à la poussière et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, dit Ecclésiaste 12:7, mais c'est un temps provisoire. Le paradis est un séjour provisoire qui a commencé avec le premier mort, peut-être Abel sûrement, et qui finira au retour de Jésus-Christ, puisque les saints ressusciteront avec les martyrs de la grande tribulation et au paradis il n'y aura plus personne, ça sera fermé pour cause d'absence. Donc il y a un temps provisoire où en fait la personne est séparée de son corps. Mais après, elle va le retrouver dans un corps glorifié. Qu'est-ce que cela représente pour nous? Qu'est-ce que c'est, cette perspective de vivre dans son corps, déjà maintenant de vivre la vie éternelle? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu veut être vu dans le visible? Est-ce qu'on est prêt à rencontrer Jésus-Christ, à le regarder, à lui serrer la main, à l'embrasser? Est-ce qu'on accorde une importance aux manifestations affectueuses? Est-ce qu'on est affectueux entre nous? Est-ce qu'on est affectueux avec nos enfants? Est-ce qu'on comprend l'importance que Dieu accorde à tout cela? Est-ce qu'on est d'accord pour dire que on a, selon ces deux versets clés, hein, Éphésiens 3:16 et 2 Corinthiens 4:16, un être intérieur et un être extérieur? On a quelque chose qui participe au monde invisible, l'être intérieur, et quelque chose qui participe au monde visible, le corps. Mais est-ce que, quand j'ai des problèmes dans mon corps, qu'est-ce qui se passe dans mon être intérieur? Est-ce que je suis interpellé par ça? Est-ce que je veux commencer, en fait, par ça? Non pas que l'esprit prévale sur la matière, parce qu'il n'y a pas de différence de valeur, mais il y a une différence d'antériorité. Et l'esprit d'un homme soutient son infirmité. Est-ce que je prépare dans mon corps ce qui va être la vie éternelle? Est-ce que j'ai bien compris que la robe de la mariée, dans Apocalypse 19, dans ce moment où nous aurons tous des corps glorifiés, la robe de la mariée, ce sera les actes justes des saints. Tout ce que nous aurons fait, nous, et qui sera fait par l'Esprit de Dieu, qui sera porteur d'amour, qui aura une valeur parce que ça correspondra à l'œuvre de Dieu en nous. Alors attention aux conceptions qui nous emprisonnent. Ça vaut peut-être la peine d'aller voir dans l'histoire de l'Église tout ce qui s'est passé. On l'a un peu fait. J'ai conscience d'avoir saupoudré. J'ai parlé de manichéisme, mais peut-être que pour beaucoup, ça reste très mystérieux, mais ça vaut la peine peut-être d'y revenir et de comprendre que dans la foi chrétienne, justement, il y a cette vie qui est complète et qui est vraiment à la gloire de Dieu. Alors, voilà, j'espère que ces propos pourront contribuer à ce que nous allions dans ce sens.